ne pas accepter la dictature d'un capitalisme mondial sorti de toute régulation.
Cette économie, elle ne peut pas être la référence absolue. Elle ne peut pas être une divinité.
Ce qui est important, c'est de réunir toutes les énergies pour arriver à formuler un nouveau projet vers lequel on a envie d'aller.
C'est l'occasion de recréer du collectif, de réfléchir ensemble.
Je vous le dis, une autre voie sur le plan économique est possible et la tâche qui nous incombe est exaltante.
L'économie sociale et solidaire peut apporter sa pierre pour ce nouveau projet.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Demain l'écho, magazine sur Micro-Rebelle. Demain l'écho, c'est une ou deux fois par mois sur microrebelle.fr, en podcast et en téléchargement. Demain l'écho vise à présenter la réalité de l'économie sociale et solidaire, l'ESS, sur le bassin minier et au-delà. Demain l'écho vise à présenter les organisations qui composent l'ESS et leurs propositions, leurs projets, inscrit dans la mise en œuvre d'une économie centrée sur les hommes et les femmes et non sur le profit. Cette émission est animée par les membres du Toit commun, hommes et femmes engagés dans des projets en économie sociale et solidaire sur le bassin minier. Le Toit commun, c'est la maison de l'ESS en centre-ville de Lens, une maison qui ouvrira ses portes durant le premier trimestre 2022. Nous sommes trois aujourd'hui autour de la table, trois membres du Toit commun. Je suis Lucien et je suis également avec Marie-Charlotte. Bonjour Marie-Charlotte.
Bonjour.
Et avec Benoît. Salut Benoît.
Salut.
Alors aujourd'hui, il s'agit d'une émission un peu spéciale, hein, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire. Traditionnellement, chaque année, le mois de l'ESS, c'est en novembre, et nous avons choisi de mettre en œuvre ce plateau radio de Demain l'écho sous la forme d'une émission spéciale consacrée à l'ESS. Eh bien, je vous propose tout d'abord, avec Marie-Charlotte et Benoît, un petit rappel historique concernant l'ESS. On a récupéré l'extrait d'une interview de Michel Dreyfus. Michel Dreyfus, c'est un historien français, qui est né en 1945. C'est un spécialiste de l'histoire du mouvement ouvrier, notamment du syndicalisme et de la mutualité. Il est directeur de recherche au CNRS, au Centre d'histoire sociale du XXe siècle, à l'Université Paris 1. Je vous propose de l'écouter et puis on en discute tout juste après.
La notion d'économie sociale a été inventée pour la première fois par Chateaubriand en 1802 et après on la voit employée par des auteurs très différents tout au long du 19e siècle, qu'ils soient libéraux, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient catholiques ou qu'ils soient proches de ce qui aura à la fin du 19e siècle, le solidarisme, c'est-à-dire ce qui donne naissance au Parti radical. Et l'économie sociale, c'est une façon de concevoir l'économie autre que faire du profit. Alors maintenant, si j'envoie à une définition extrêmement contemporaine, je partirai de la loi de 2014 sur l'économie sociale, qui définit à partir de trois points. Premièrement, elle repose sur ces mouvements historiques que sont la mutualité, les associations et le mouvement et les coopératives ou le mouvement coopératif, auquel il faut ajouter, mais c'est beaucoup plus tardif, l'apparition des fondations, mais elle n'arrive qu'en 1900, dans les années 80 dans le paysage, 1980, donc beaucoup plus tard. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'économie sociale, en principe, n'est pas destinée à faire du profit, mais à avoir une utilité sociale, une utilité publique. Et troisièmement, l'économie sociale se définit par un mode de gouvernance qui est un mode de gouvernance démocratique. Donc on est entre à la fois, on est ailleurs que dans ce qu'on pourrait appeler le capitalisme, qui sert d'abord à faire du profit et sur lequel se sont développées toutes nos sociétés industrielles depuis le 19e siècle, et on est aussi en dehors du tout État, le socialisme ou le collectivisme, comme vous voudrez l'appeler. Il y a encore cette notion, évidemment, on pourrait développer, mais l'économie sociale, c'est à la fois le refus du capitalisme et le refus du tout État. Le fait qu'un grand nombre d'hommes, et beaucoup moins de femmes malheureusement, se sont investis de cette façon dans ces dans ces mouvements, dans ces associations, dans ces coopératives, dans ces mutuelles. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire ici que le militantisme, ce n'est pas seulement le militantisme ouvrier. Le militantisme ouvrier, Dieu sait si je suis attaché, j'ai beaucoup travaillé. Mais le militantisme, ça peut aussi être le militantisme des notables, des catholiques, des personnages de province, des républicains, de toutes sortes, qui agissent en fonction d'un idéal, en fonction de leur idéal, qui a, bon, on peut évidemment discuter, mais en fonction d'un idéal, et qui agissent non dans un but de profit. Ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire que toutes nos sociétés, le poids du profit est très important, et les mouvements d'économie sociale se sont d'abord construits en réaction au capitalisme. C'est une réaction au capitalisme, aussi bien les associations que les coopératives que les mutuelles, pour répondre d'abord à des besoins immédiats ou des besoins à plus long terme qui se posaient dans la mesure où la révolution industrielle changeait considérablement le mode de vie des uns et des autres et créait de nouveaux besoins. Et c'est à ces nouveaux besoins que l'économie sociale, les mouvements d'économie sociale s'efforçaient de répondre. J'ajoute une chose qui est très importante et on y reviendra sans doute, c'est le fait que ces mouvements ont pris leur essor, ont commencé à se développer, se sont développés à un moment où l'État intervient très peu dans l'économique et le social. En effet, pourquoi ? J'ai dit que tout ça commence en réaction au début de la révolution industrielle, donc vers les années 1830. Or, à cette époque, il faudra attendre jusqu'à la fin du 19e siècle, l'État n'intervient pratiquement pas dans l'économique et le social. Par exemple, il n'y a aucune sécurité sociale, il n'y a pas de législation du travail, toutes choses qui vont commencer à être inventées, mises en pratique, mises en place à partir du 19e siècle. Donc, ça pose la question de l'État, et de ce point de vue, l'intervention des mouvements d'économie sociale s'est faite bien avant l'intervention de l'État.
Bien, donc 5 petites minutes de contexte historique, de contexte de définition. Comment est-ce que vous réagissez, Marie-Charlotte et Benoît ?
Ce qui me paraît important quand même, dans ce qui a été dit, c'est que donc, l'économie sociale et solidaire, par définition et historiquement, naît en dehors déjà du système capitaliste et en dehors de la gouvernance de l'État. Donc ça montre bien que c'est une alternative à des systèmes qui existaient déjà à ce moment-là. Donc ça répond en fait à une volonté de créer une autre voie possible, hein, une troisième voie, en dehors du système économique majoritaire et en dehors d'un État qui serait trop paternaliste, trop dirigiste, comme on pourrait le voir dans des systèmes communistes, par exemple.
Alors, pour ma part, je suis assez gêné quand, à chaque fois qu'on me pose cette question. Qu'est-ce que c'est que l'économie sociale et solidaire ? Comment on peut la définir, etc. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de définition de l'économie sociale et solidaire. D'abord, faut revenir au fondement même des choses. Dans le mot, dans l'appellation économie sociale et solidaire, le premier mot, c'est l'économie. C'est quoi l'économie ? Faut d'abord se poser cette première question. Parce que si on répond à cette question, on va vite se rendre compte que ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, ça devrait être la vraie économie. Le reste n'est pas de l'économie. Donc ça veut dire quoi ? Si on part de l'hypothèse que l'économie, c'est un ensemble de systèmes qui permettent la production de biens et de services par des hommes ou des femmes et dans un but d'être au service du monde entier, de la préservation de la planète, en prenant en compte la préservation de la planète, enfin, etc., un certain nombre d'attendus. L'économie, c'est avant tout ça. C'est produire des biens et des services, et le faire intelligemment. Donc, quand on parle de la production de biens et de services, il y a des hommes et des femmes qui font cela. Il y a des hommes et des femmes qui interviennent. Il y a des travailleurs, qu'ils soient salariés ou pas salariés, qu'ils soient dirigeants ou pas dirigeants, et que la manière dont on va faire réaliser cette production de biens et de services c'est là qu'il faut se poser un certain nombre de questions. Et là, pour moi, la vraie économie, c'est l'économie qui prend en compte ces hommes et ces femmes, qui prend en compte la diversité qu'il peut y avoir autour de soi, qui prend en compte les limites finies de la planète. Et donc, cette économie-là, qu'aujourd'hui, on aurait tendance à donner comme définition à l'économie sociale et solidaire, ça devrait être la vraie économie. Le reste, c'est une question financière, c'est une question où on s'occupe que de l'argent, on s'occupe que des moyens pour y arriver, parce que l'argent, c'est qu'un moyen, c'est qu'un outil. Donc pourquoi on met en avant l'outil avant de mettre les hommes et les femmes qui définissent l'économie ? Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais en tous les cas, il me semble important qu'on revienne aux fondamentaux de l'économie et qu'on arrête de se poser la question à définir « on est une association de l'économie sociale et solidaire, on est une coopérative, on est de l'économie sociale et solidaire ». Il faut aller beaucoup plus loin que ça et revenir aux fondamentaux de ce qu'est l'économie.
On sent la définition du militant de l'ESS, là.
Ah, je ne sais pas si... Non, je suis un militant de l'économie. J'aurais envie de me définir comme étant un militant de l'économie et pas un militant de l'ESS. Parce que
tu vois l'ESS comme étant la vraie économie.
Tout à fait.
Ok, moi, je trouve ça tout à fait intéressant. De même dans ce que dit Marie-Charlotte, c'est vrai que l'ESS, il ne l'a pas dit Michel Dreyfus, hein, mais c'est vrai que l'ESS, souvent, on appelle ça aussi le tiers secteur. Autrement dit qu'il n'est ni le secteur capitaliste traditionnel, ni le secteur étatique. Hein. D'ailleurs, quand on regarde un petit peu l'ensemble des initiatives de l'économie sociale et solidaire, beaucoup d'entre elles... Pas suffisamment à mon goût, effectivement, mais beaucoup d'entre elles se définissent comme étant voulant gérer leurs affaires elles-mêmes et non pas confier à l'État le fait que l'État gère leurs affaires. Je vous propose d'enchaîner, ou là, Marie-Charlotte, tu voulais réintervenir ?
Non, mais je pense que ça serait intéressant, du coup, d'enchaîner avec les petits morceaux qui ont été enregistrés.
Voilà, donc là, peut-être quelques éléments de contexte. Hein, donc, il n'y a même pas une heure... dans l'après-midi, juste avant l'enregistrement de ce Demain l'écho, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, Microrebelle a ouvert ses portes et il y avait plusieurs personnes qui ont participé. Et on a fait un mini plateau radio où on a posé la question « Pour vous, c'est quoi l'ESS ?» Alors on va écouter les réponses. Alors je vous préviens tout de suite, c'est brut de fonderie, hein, ça vient tout juste d'être enregistré. Il n'y a pas eu de montage derrière, c'est... Bon, l'enregistrement est correct, hein, mais vous verrez que c'est pas complètement monté. On l'écoute et puis on en discute tout juste après. Qu'est-ce que c'est que pour vous l'économie sociale et solidaire ?
Je veux bien commencer. Donc, l'économie sociale et solidaire, ça me fait penser surtout à la transition écologique. Faire attention à ce que l'on utilise. Moins gaspiller, moins utiliser de matériaux style plastique, tout ce qui est à base de pétrole, tout ce qui est polluant, et puis donner la chance à nos enfants, enfants ou petits-enfants, de pouvoir connaître les arbres tels que nous les connaissons, nous, la faune, la flore telle que nous la connaissons, les connaissons aussi. Donc un beau monde, une belle planète et pas la planète qu'on est en train de leur préparer de façon inconsciente, mais nous ne sommes pas assez nombreux pour pouvoir y changer quelque chose pour l'instant.
Moi, c'est pareil, ça aussi, ça m'évoque la transition écologique, mais aussi surtout le partage des richesses entre tout le monde, la solidarité, l'entraide. Pour moi, c'est surtout ça, l'économie sociale et solidaire. Voilà.
Mais moi, j'étais partie sur la même pensée que vous, la solidarité entre tous, il y a surtout l'entraide, le pouvoir d'achat... peut-être sûrement accessible au moyen de l'ESS, et oui, et puis offrir, tout à fait d'accord avec toi, pour offrir une planète respectable à nos enfants, avec des produits des produits de bons produits de bonne saison, pas de produits fabriqués, et puis du partage.
Voilà, donc je précise, on a entendu trois personnes à donner leur définition, leur ressenti concernant l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Je précise que parmi ces trois personnes, il y en a une qui est impliquée dans une organisation de l'économie sociale et solidaire, mais les deux autres, pas spécialement. Donc c'était intéressant d'avoir ce panel restreint, mais quand même hétérogène et diversifié. Benoît, je te vois songeur.
Non, pas songeur. Je trouve très intéressant le parallèle qui est fait entre transition écologique et économie sociale et solidaire. J'ai envie de dire, il faudrait aller encore un petit peu plus loin, il faudrait faire un parallèle entre transition écologique et transition économique. Parce que je pense qu'on en est là. Si on veut, tu me qualifiais tout à l'heure de militant de l'ESS, ben, si on veut s'affirmer comme militant de l'ESS, si on pense que toute l'économie devrait être sociale et solidaire, ben, il faut vraiment qu'on arrive à faire une vraie transition aussi culturelle qu'est la transition écologique. Parce que je pense que la transition écologique, ça fait référence aux engagements de chacun, au positionnement de chacun par rapport à un certain nombre de choses, par rapport à la notion de croissance, par rapport au fait que le monde est fini, par rapport qu'on ne peut pas indéfiniment bousiller la planète, polluer la planète et sans se soucier des générations futures. Bah, de la même manière, on ne peut pas sans arrêt engluer l'économie dans une financiarisation et on ne peut pas sans arrêt resituer l'économie comme étant le but d'aller servir des actionnaires extérieurs, etc. Tout ça, il faut qu'on travaille sur cette notion de transition, cette notion de parce qu'on ne va pas passer du jour au lendemain une économie toute capitaliste à une économie toute sociale et solidaire. Il y a un processus qu'il faut mettre en place et comment on y arrive. Et en tous les cas, je pense qu'au niveau du toit commun, c'est un des challenges qu'on se fixe de travailler comment on pourrait gérer cette transition.
On remarque quand même que la notion de solidarité et d'entraide est vraiment au cœur, en fait, des définitions. On a eu une intervention qui parlait beaucoup de la transition écologique, mais sur les deux autres personnes, on remarque que, quand même, le mot qu'elles retiennent dans économie sociale et solidaire, c'est surtout l'aspect solidaire. Surtout l'aspect de dire il faut partager, il faut partager, il faut rendre accessible des choses. Il y a eu même la notion de pouvoir d'achat qui a été évoquée, ce qui sous-entend quand même que pour l'instant, tout le monde n'a pas accès à la même chose, puisqu'il faut un pouvoir apparemment pour accéder à quelque chose. Enfin, ce terme de pouvoir d'achat, je trouve toujours... Il m'interroge toujours, puisque un pouvoir pour acheter, c'est vraiment un terme aussi qui sort quand même, je trouve, bien du capitalisme, ça, pouvoir d'achat. Voilà cette notion de solidarité. Alors, dans les définitions, on n'a pas parlé d'économie, du coup, Benoît, peut-être que pour les intervenants, c'était déjà... clair que c'est ce que devrait être l'économie. Mais en tout cas, il y a une critique sous-entendue de ce qu'est l'économie actuelle, c'est-à-dire l'économie capitaliste, là, qui est bien sous-entendue, c'est-à-dire une économie destructrice de la planète, qui crée des inégalités et qui empêche, en fait, le partage, qui empêche la solidarité. Et que, du coup, c'est ce que propose l'économie sociale et solidaire comme alternative.
Et toi, Lucien, qu'est-ce que t'en penses ?
Ben, moi, effectivement, j'ai trouvé intéressant les deux approches. Hein. Une approche, l'ESS, c'est des thématiques, notamment une thématique qui a été citée, c'est l'écologie, la transition écologique. Donc ça, c'est vrai, mais ça vaut le coup quand même de préciser que l'ESS, c'est pas que ça. Enfin, c'est, effectivement, la dimension écologique, elle est extrêmement importante, bien sûr, pour les questions évidentes de pérennité de la planète, de lien avec l'environnement, avec la nature... Mais l'ESS, c'est aussi plein d'autres thématiques. Hein. On peut rappeler très, très schématiquement, l'ESS, c'est du commerce équitable, c'est de la santé, c'est du logement, c'est de l'éducation populaire, c'est de la culture, c'est du numérique, c'est... je pense qu'il n'existe pas de domaine qui échappe à l'ESS. Bon, heureusement, il en existe quand même quelques-uns. Il n'y a pas d'ESS marchand d'armes, par exemple.
Il n'y a pas de bourse ESS, non?
Il n'y a pas de bourse ESS, effectivement, même si certaines organisations se revendiquent de l'ESS et sont cotées en bourse, ce qui, à mon avis, est une contradiction dans les termes. Mais bon, c'est une autre question. Donc, cette approche par les thématiques, je pense qu'effectivement, ça me semble important de rappeler que l'ESS, c'est des champs d'action très, très diversifiés, et j'en ai oublié énormément, hein. L'insertion, l'alimentation, enfin, etc. Il y a énormément de thématiques qui sont brassées par des organisations de l'économie sociale et solidaire. Et puis, la deuxième approche qui a été évoquée, c'est la question des valeurs. Le partage, c'est un mot qui a été employé de manière très, très forte. Et c'est vrai que c'est important de redire que l'ESS, c'est du sens en matière de valeurs, en matière de finalité, en matière d'orientation. Le toit commun a défini, par exemple, plusieurs marqueurs concernant ce à quoi il est attaché au sein de l'ESS. Dedans, il y a innovation sociale, il y a le développement durable. Donc l'ESS, ce sont des valeurs qui guident l'action des hommes et des femmes qui mettent en œuvre cette économie sociale et solidaire, cette nouvelle économie, cette économie qu'on souhaiterait étendre à toute la sphère économique dans son ensemble. Je vous propose d'arrêter sur cet échange. Alors, un dernier enregistrement, ce sera encore un extrait. Ce mois-ci, hein, en novembre 2021, le Toit commun organisé, le mois de l'économie sociale et solidaire, organise toujours d'ailleurs, hein, puisqu'on est encore en plein dedans. Et la journée de lancement de ce mois de l'économie sociale et solidaire, c'était au Louvre-Lens-Vallée, le 9 novembre, avec différents intervenants, hein, issus de la communauté d'agglomération, issus du crédit coopératif, et puis issus des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Ben, je vous propose d'écouter une des conclusions qui ont été élaborées à l'occasion de cette journée de lancement. C'est Laurence Zaderadsky, qui est présidente de Culture et Liberté, qui est également membre de l'équipe du Toit commun, qui tire ses conclusions de la journée. On l'écoute et on en discute tout de suite après.
Nous mettons vraiment toute notre énergie dans cette transition vers plus de ESS. C'est un enjeu pour l'économie, mais également pour la démocratie. D'où partons-nous ? D'une grande diversité dans l'ESS. Pour faire court et sans hiérarchie, trois grands types. Donc l'ESS de réparation et de l'économie classique. L'économie génère de la pauvreté, l'ESS met en place des associations pour pallier et compenser. L'économie classique détruit l'emploi, génère du chômage et casse les travailleurs ou les travailleuses. L'ESS développe des activités par l'insertion. L'économie classique détruit le logement. L'ESS crée des coopératives de l'habitat. L'ESS a développé un vrai savoir-faire et un savoir-être sur l'ensemble de ces domaines, surtout quand elle sait associer les premiers concernés, les habitants, les travailleurs, etc. Une deuxième catégorie, c'est l'ESS qui se met sur le même niveau que l'économie classique. C'est la culture de la Startup Nation, avec un seul mot d'ordre, quantifier, y compris quand il s'agit des femmes, des hommes ou de la planète. Une économie qu'Edgar Morin qualifie ainsi. L'obsession permanente du profit devient une intoxication, où l'argent de moyen devient une fin. L'obsession du quantitatif, du calculable, du chiffrable devient une intoxication cognitive généralisée. Et puis, celle que nous avons vue aujourd'hui et cet après-midi, une ESS de résistance et de construction. Résistance au modèle économique classique qui agit en prédatrice, et puis qui essaye, comme seul doxa, la croissance qui amène à penser et à organiser l'économie uniquement en concurrence, en culpabilisation et pas en coopération. Et puis, la croissance à tout prix, quoi qu'il en coûte, toujours la quantité, rarement la qualité. Autre socle de l'économie classique, la propriété privée des moyens de production de biens et de services. Exemple typique, Auchan appartient à la famille Mullier, LVMH à la famille Arnault. vous en trouverez certainement d'autres de votre côté. Le SS de construction, c'est une préfiguration de ce que l'économie pourrait et devrait être, où on repart du sens. Cette ESS prendrait la forme d'archipel des communs, dans une dynamique de progrès. C'est ce que nous construisons, par exemple, ici, dans ce territoire, avec le toit commun. Nous avons pris 4 marqueurs. L'utilité sociale, l'organisation collective, la gouvernance démocratique et la lucrativité limitée. Le monde d'après, il peut être déjà en action sur ce territoire. Il répond à la question essentielle du sens. Des organisations sont déjà très investies dans ces champs très divers que vous avez pu voir, et puis d'autres comme la question environnementale, le combat féministe, l'éducation populaire, l'insertion, le commerce équitable, la gestion de l'eau, les finances et la formation de proximité. Un territoire en dynamique pour une ESS de construction, de transition, un mouvement à élargir, à développer largement sur d'autres territoires. Nous avons des collectivités actives, elles sont présentes encore aujourd'hui, impliquées comme le conseil départemental et la CAL. C'est le bon échelon pour pouvoir faire ensemble, avec les habitants, que les habitants puissent mesurer facilement les impacts. Et pour rappel, 50% des Français et Françaises ont confiance dans leur maire et 86% souhaitent que la participation citoyenne se développe dans leur commune. Nous avons besoin de toujours plus d'organisations, d'entreprises, de villes et de militants engagés dans cette ESS, exigeante, ambitieuse et émancipatrice. La démocratie est aussi impactée par le modèle économique classique. Elle traverse une grave crise de confiance. La représentativité est mise en question. Il est essentiel de pouvoir reconstruire un contrat démocratique sur la base des communs qui seuls garantissent l'intérêt général et pas des intérêts particuliers. Ce contrat a besoin de temps long pour être reconstruit avec toutes et tous, alors que tout nous ramène dans l'économie classique vers du très court terme et de l'immédiat. C'est également un enjeu de liberté et d'égalité démocratique. Aurore Bimont et Juliette Deck, auteurs d'un livre qui vient de sortir, écrivent « Les acteurs de l'ESS, associations, coopératives, ont également un rôle crucial dans la transition écologique et démocratique. Ancrés dans les territoires, ils favorisent la collaboration, offrent des opportunités d'engagement et permettent aux personnes les plus éloignées des institutions de s'exprimer. »
Une conclusion lors de cette première journée, lors de cette journée de lancement du mois de l'économie sociale et solidaire. Alors j'avais envie de débattre déjà des trois types qu'évoque Laurence Aderatsky. Le premier type de SS qu'elle évoque, c'est l'économie de réparation. L'économie de réparation des dégâts de l'économie classique, pour reprendre son expression. Alors est-ce que c'est un modèle qui a des limites, qui a des points forts?
J'ai un peu l'impression que c'est le modèle qu'on connaît le plus, globalement, puisque, à la cité des exemples parlants, la destruction des emplois, on crée de l'insertion, problème d'habitat, on fait une coopérative de l'habitat. On a l'impression que c'est le réflexe numéro un de dire... il faut réparer ce qui est endommagé par le capitalisme. Alors, le problème de cette définition, même si ce que font ces acteurs, en effet, de ces initiatives, va dans le bon sens, c'est très louable, il y a quand même un aspect un peu pessimiste, je trouve, dans cette action, qui est de dire on ne peut pas changer le système. Donc, on va essayer de le rendre moins destructeur, moins difficile à supporter. Et donc, c'est quand même, encore une fois, c'est une réponse de court terme, puisque le but, c'est pas d'impulser du coup des changements en profondeur, c'est juste de donner plus de dignité aux gens, de rattraper, alors que, à la limite, on n'aurait pas besoin de ça si on changeait le système complet. Hein. Donc, c'est peut-être un petit peu utopique de dire ça. Mais je trouve que cette ESS de réparation, pour moi, elle est beaucoup trop pessimiste, du coup.
Mais en même temps, quand tu dis qu'elle redonne de la dignité à des hommes et des femmes, ça veut aussi dire qu'elle est quand même extrêmement importante, parce que
ah oui,
sinon il y aurait des laissés pour compte.
Elle doit exister, c'est bien qu'elle existe, mais elle ne peut pas être une fin en soi, en fait.
Alors, je vais encore me poser un petit peu faire un pas de côté. Si l'économie de la réparation s'est donnée de la dignité à des hommes et des femmes, c'est réparer des dégâts qui sont faits par d'autres, j'ai envie de dire qu'il faut aller encore un petit peu plus loin. Je pense que, pour moi, l'ESS, c'est une manière de faire l'économie qui veut s'attaquer à l'ensemble des maux de la société, et pas simplement les dégâts du capitalisme. Alors, je vais encore plus loin dans la réparation, quelque part. On sait que, par exemple, dans notre société, il y a un grand enjeu démocratique. Et là, quand on parle de démocratie, on pense tout de suite élections, on pense tout de suite les élus, on pense tout de suite le pouvoir. Mais la démocratie dans le quotidien, la démocratie dans les couples, la démocratie dans les entreprises, etc., c'est des questions du quotidien. Et donc, je pense que l'économie sociale et solidaire, ce sont des lieux d'expérimentation pour réfléchir à ces questions-là. J'ai pris cet exemple-là, donc les réparations des dégâts du capitalisme, les réparations des dégâts de la démocratie. J'aurais envie de prendre un troisième exemple, c'est les réparations des dégâts de l'individualisme. Quand on fait de l'ESS, on peut pas, c'est pas un homme ou une femme, c'est pas une personne toute seule qui fait de l'ESS. Ça n'existe pas. C'est automatiquement un collectif. Parce que sinon, on ne sait pas de l'ESS. Et donc, on va à l'encontre de notre société actuelle qui veut promouvoir toujours l'être humain comme étant au centre. Alors, l'être humain au centre, oui, mais pas l'être humain tout seul. L'être humain dans une société, dans une façon de faire les choses. Et je crois que c'est ça qui est important. Donc, j'ai envie de dire, oui, il faut donner de la dignité aux gens et aux autres, mais il faut amener chacun à réfléchir à l'ensemble des éléments qui composent les problèmes de notre société actuelle et comment, à partir de l'ESS, et on pourrait le faire dans d'autres sujets, hein, mais à partir de l'ESS, on travaille à améliorer le fonctionnement de nos sociétés.
Alors, deuxième typologie qu'évoquait Laurent Zaderatsky, une ESS, je reprends un peu son expression, qui court après l'économie classique, hein, qui s'efforce de faire pareil, si ce n'est mieux. Allez, je vais me lâcher, je vais citer un exemple. L'exemple qui me semble le plus pertinent, le groupe SOS. Le groupe SOS, dirigé par Jean-Marc Bourrello, énormément de structures, des rachats de structures, des gens au travail qui sont pas forcément heureux. Il y a eu des articles là-dessus. Une ESS dont s'inspire le macronisme, finalement. Hein, puisque Jean-Marc Bourrello, le dirigeant du groupe SOS, c'est quelqu'un qui a l'oreille du président Macron, ou dont le président Macron a l'oreille, comme on voudra. Donc c'est finalement une ESS qui pense qu'elle peut mieux faire que les autres. Alors c'est un exemple, hein, j'ai parlé du groupe SOS parce que on les connaît bien, finalement. Il y a sans doute d'autres exemples, hein, peut-être même dans notre région, d'ailleurs aussi, il y a sûrement des exemples qu'on pourrait
Vitamine
pointer.
T, par exemple.
Comment ?
Vitamine T, par exemple.
Je te laisse développer.
non, vas-y.
non, mais effectivement, il y a des exemples tels que ceux-là, où on est persuadé que parce que on s'est positionné avec l'étiquette sociale et solidaire, eh bien, on va faire comme les entreprises classiques, mais mieux. On va mieux gérer qu'elles, on va mieux... est-ce que l'exemple que donnait Laurent Zaderski est tout à fait intéressant, c'est le mot maître, c'est quantifié. C'est quantifié. Alors, on peut dire que c'est une économie dans laquelle on ne se retrouve pas. J'exagère si je dis ça, Marie-Charlotte ?
Je pense que la difficulté, peut-être, c'est l'injonction à être, à fonctionner, et que je pense que quand on crée une initiative... qui pourrait être hein, d'ailleurs le cas du toit commun, hein, puisqu'il y a toujours une histoire d'argent derrière. Et il y a forcément un objectif de fonctionnement budgétaire, financier, de pouvoir payer les gens, de pouvoir payer le bâtiment, de payer le fonctionnement. Et du coup, forcément, c'est facile d'aller partir dans des notions de profit et de rentabilité. Là, je pense que la tentation, elle est grande. Et la tentation aussi, ça serait de dire peut-être que l'ESS a quelque chose à prouver sur ce terrain-là. Que l'ESS a à prouver qu'elle peut faire aussi bien. Et en fait, quand on dit faire aussi bien que le capitalisme, c'est forcément à double tranchant, parce que qu'est-ce que ça veut dire, aussi bien? Ça veut dire à quel niveau? Est-ce que du coup ça veut dire que le capitalisme fait quelque chose de bien? Donc forcément, c'est un terme... c'est un peu sujet à débat. Donc forcément qu'à un moment donné, créer un projet en économie sociale et solidaire implique que si on a des salariés, il va falloir les payer, les salariés. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir gagner de l'argent. Et donc, on imagine que c'est le travers de dire on va faire du profit et on y arrive facilement, je pense. Donc après, il faut mettre des garde-fous, en fait. Je pense que l'idée, c'est là, c'est de dire... alors, par exemple, si je prends l'exemple du toit commun, quand on est sociétaire du toit commun, on achète une part sociale sur laquelle on ne va rien gagner, en fait. Donc ça, c'est peut-être déjà... donc il n'y a pas, pour les personnes qui sont sociétaires, il n'y a pas d'intérêt à ce que, en tout cas d'intérêt personnel, à ce que le toit commun gagne beaucoup d'argent, puisque en tant que sociétaire, en tout cas, ils n'en verront pas le fruit. Ça fait partie des choses qu'on peut mettre en place pour éviter de tomber dans ce travers-là.
Oui, peut-être. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Marie-Charlotte. Je crois que ça pose la question de l'engagement de chacun. Qu'est-ce qui motive chacun? Derrière ta question, il y a deux choses.
Le sens encore.
Le sens. Qu'est-ce qui fait qu'on va attacher plus d'importance au sens qu'au fait de gagner de l'argent? Qu'est-ce qui va mettre la personne en mouvement pour pouvoir aller dans ce sens-là? C'est une question qu'il faut se poser et savoir comment faire. Puis il y a une autre question derrière ça. C'est la question du micro et du macro. Comme tout à l'heure je disais, notre espérance, c'est que toute l'économie devienne sociale et solidaire. Qu'il n'y ait pas l'économie capitaliste et puis l'économie sociale et solidaire, mais que toute l'économie soit sociale et solidaire. Comment on y arrive? Est-ce que l'on pense que c'est une somme de micro-projets? Et encore, qu'est-ce qu'on appelle un micro-projet? Jusqu'à quand on est micro? Jusqu'à quand on est encore démocratique? Jusqu'à quel niveau de collectif on arrive à gérer humainement les choses sans que ça prenne des proportions gigantesques? Mais en même temps, est-ce que le fait de favoriser des petites structures et un ensemble de petites structures qui vont se connecter les unes aux autres, comment on le fait? Et qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on sera en capacité de gérer des grands projets? Je prends un exemple. Si on voulait dire que toute l'économie devrait être sociale et solidaire, une chose importante, c'est la production d'électricité, d'énergie. Une chose importante, c'est les transports, le ferroviaire. Est-ce que la somme de petites choses pourrait permettre de mettre en place un réseau ferroviaire qui fonctionne? Est-ce que la somme de petites choses pourrait permettre de régler le problème énergétique d'accès à l'énergie de l'ensemble des citoyens? Il faut vraiment se poser la question de comment on passe d'une multiplication d'initiatives micro qui, parce qu'elles sont micro, ont des chances de rester démocratiques, à une organisation macro. Je pense que ça, c'est un débat de fond dont on n'a pas forcément toutes les réponses aujourd'hui, mais que je pense que dans le cadre du droit commun, dans le cadre de notre université populaire de l'économie sociale et solidaire, on va devoir travailler et travailler longtemps pour trouver des réponses et pour aller chercher des réponses ailleurs, parmi ceux qui ont déjà réfléchi à la question.
Alors là, justement, en critiquant cette deuxième typologie d'ESS, une ESS en quelque sorte d'accompagnement ou de concurrence de l'économie classique, en critiquant cette économie, on a assez vite dérivé sur celle qu'on souhaite, qui est la troisième, finalement, c'est cette économie que Laurent Zaderewski a appelée
une ESS de résistance et de transformation, une résistance et puis de proposition finalement. Et Laurence Deraski, elle aborde deux définitions sous-jacentes pour la définir. C'est la question de la propriété privée des moyens de production. Bon, là, on l'a un peu évoqué quand on parlait de la SIC et des sociétaires de la SIC. La SIC, c'est une propriété collective. Laurence Deraski allait même plus loin quand elle parlait des communs, de l'archipel des communs. On me dit, c'est finalement une propriété. La propriété, elle n'existe plus. Elle est de fait la propriété de celles et ceux qui ont l'usage de soit d'une ressource, soit d'une activité. Hein.
C'est l'entreprise elle-même qui devient propriétaire de son propre mode de fonctionnement.
Exactement. Les communs, c'est le droit d'usage. Mm-hmm. Finalement, c'est ça. Et puis le deuxième axe qu'évoquait Laurence Deraski, c'est la question de la croissance, effectivement. L'économie traditionnelle ne peut, c'est dans son code génétique, hein, ne peut que vouloir de la croissance à tout prix, parce que il y a la concurrence entre les entreprises. La concurrence entre les entreprises fait que le prix des biens et des services baisse, et donc pour générer toujours plus de profits, ou au moins autant de profits, ben il faut vendre toujours plus, d'où cette idée de croissance et le fait qu'on est obnubilé, on est guidé par les taux de croissance, par où en est le PIB, enfin, etc., etc. Et donc dans cette autre économie, c'est ce type de choses qu'on souhaite remettre en question, ou tout au moins interroger.
Oui, il est clair qu'on peut faire des choses différentes. Mais même, je pense que tout à l'heure, on parlait de la diversité des activités de l'ESS. Je pense que c'est notre capacité à aller dans tous les domaines qui fera notre force et qui fera... Le fait qu'on va inventer dans tous les domaines des nouvelles façons de faire. Parce que c'est pas simplement... Je suis tout à fait d'accord sur la question de la propriété des moyens de production. Hein. Et encore une fois, moi, je suis militant du fait qu'il ne devrait pas y avoir d'actionnaire nulle part. L'entreprise devrait être propriétaire de son propre capital. C'est le sens. Et ça a du sens que ce soit d'ailleurs à côté de l'État. Parce que l'État a son propre capital. Et l'État est propriétaire de son propre capital. Mais l'État est chargé d'organiser les choses. Eh bien, je pense qu'à côté de l'État, il y a la place pour des structures qui sont elles-mêmes porteuses de leur dynamique et de leur projet. Et d'ailleurs, pour terminer sur ce sujet-là, je pense qu'on a un gros travail de communication à faire. De communication à faire sur d'explication sur ce que... Et cette émission va tout à fait dans ce sens-là. De ce qu'est l'économie sociale et solidaire, de qu'on veut faire. Parce que qu'est-ce qu'il y en a marre de la pub sur le capitalisme qui nous passe en permanence? On ouvre la radio, on a, allez, c'est peut-être 5, hein, quelques pourcents par jour d'émission, mais ça passe tous les jours, on entend les cours de la bourse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre dans ma vie quotidienne des cours de la bourse? Et on l'entend tout le temps à la radio. Donc il faudrait vraiment changer. Je préférerais qu'on parle de l'économie sociale et solidaire plutôt que des cours de la bourse. Et puis quand on voit aussi, qu'est-ce qu'on réfléchit? La grandeur, aujourd'hui on nous parle toujours du made in France, de la grandeur de la France. Quand on sait que dans le monde, le poids de l'économie française, ça repose sur l'armement, le luxe et la production d'avions et de satellites...
Je précise pour nos auditrices et auditeurs, parce que ça ne se voit pas, que Benoît fait des grandes grimaces.
D'accord. Donc quand on sait que c'est là-dessus qu'on fait notre soi-disant richesse de la France, eh ben, je ne suis pas fier d'être français. Hein. Je vais vous dire une chose, je ne suis pas fier d'être français. Parce que je pense qu'il faut que véritablement on redonne à la France, on redonne à nous toutes et tous, pas à la France à la limite, ce n'est pas grave, mais à nous toutes et tous, l'envie de montrer qu'on peut faire du progrès social, qu'on peut faire de la volonté des hommes et des femmes qui nous entourent.
Bien, je vous propose de nous acheminer vers la fin de cette émission. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, en studio, on a un peu de public. Je les remercie d'être parmi nous pour écouter cette chouette émission Demain l'écho. Je ne sais pas si vous souhaitez intervenir, poser des questions ou faire des remarques.
Globalement, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Je retiens l'idée que la solidarité est peut-être prépondérante dans l'économie sociale et solidaire. Enfin, moi, je la considère au cœur, parce que si on est solidaire, on compense aux autres, le reste découle. Et qu'il faut changer l'économie, enfin trouver une autre économie, proposer une nouvelle forme et autrement, ça rejoint un peu aussi la transition écologique, où on sait qu'il faut changer, mais en fait on est bien dans notre zone de confort et on a un peu peur du nouveau. Et comme exemple, je donnerais avec une association, on a fait un savré greenwashing où on était devant les enseignes et on dénonçait en fait leur politique greenwashing. Exemple, vous ramenez des vieux vêtements et je vous donne des bons pour acheter des vêtements neufs. Voilà. Et alors, il y a une dame qui en pleurait presque. Elle dit, mais je suis d'accord avec vous. Mais en même temps, là, en l'occurrence, c'était à Lens. On se tue à faire revivre le centre-ville, à faire revivre les commerces. Et donc, moi, je peux pas soutenir votre action qui se passe devant les commerces. Et c'est là où il faut vraiment proposer autre chose. Et je crois qu'on parlait de transition écologique avec Juliette et Aurore. Elle disait que voilà, il fallait prévoir aussi tous les salariés qui allaient se retrouver sans emploi si on enlevait tout ce qui était emploi sale et qu'il fallait prévoir aussi la suite. Et que pour l'économie sociale et solidaire, il faut proposer un modèle qui ne fasse pas peur. Mais c'est toujours la transition quoi, qui fait peur.
Bien, si vous êtes d'accord, Marie-Charlotte et Bono, je propose que ce soit le mot de la conclusion, qu'on s'arrête là-dessus. Merci de nous avoir écoutés. Merci de nous écouter sur micro-rebelle.fr. Et à très bientôt pour un nouveau Demain l'écho.
Ne pas accepter la dictature d'un capitalisme mondial sorti de toute régulation.
Cette économie, elle ne peut pas être la référence absolue. Elle ne peut pas être une divinité.
Ce qui est important, c'est de réunir toutes les énergies pour arriver à formuler un nouveau projet vers lequel on a envie d'aller.
C'est l'occasion de recréer du collectif, de réfléchir ensemble.
Je vous le dis, une autre voie sur le plan économique est possible et la tâche qui nous incombe est exaltante.
L'économie sociale et solidaire peut apporter sa pierre pour ce nouveau projet.